France Inter, le 18-20.
Votre prénom dans la marge, la date à deux carreaux, dictée. La mère est partie si loin qu'elle ne reviendra peut-être plus jamais, point. C'est du Colette, figurez-vous, peut-être aussi une Madeleine de Proust, un grand classique de la dictée, cette Colette. En tout cas, dans ma génération, vous me direz si c'est toujours vrai aujourd'hui. Ça ne l'est peut-être plus assez, si l'on en juge par ce que dit le ministre. Peut-être que le problème est bien ailleurs. En tout cas, selon les résultats de l'enquête Pearls, réalisée une fois tous les 5 ans, nous sommes mauvais en lecture, loin dans le classement, 34e sur 50 pays, très loin en compréhension surtout. Bref, les enfants connaissent la musique des syllabes, mais ne vont pas jusqu'à comprendre le sens des mots. L'enjeu est énorme, là-dessus tout le monde est d'accord. Mauvais en lecture, c'est la promesse d'un décrochage scolaire, d'échec des plus modestes aussi, le plus souvent. Alors, qui est responsable? Les enseignants, les parents, le système, les programmes, les livres, tout ça, mon capitaine, à vous de nous donner votre avis, c'est tout de suite.
Fabienne Synthès, le téléphone sonne.
Et c'est Cécile qui entre en piste la première. Bonsoir Cécile, soyez la bienvenue, on vous écoute.
Bonsoir à tous, merci France Inter de la qualité de vos émissions. Je voulais intervenir juste pour un témoignage, je suis institutrice en CP depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, donc c'est une journée un peu difficile pour nous quand on entend des résultats d'études comme ça. Alors, on va pas s'amuser à remettre en cause les études, hein, elles sont là, voilà, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses, faut réfléchir autrement, je pense. Moi, il y a des petites choses sur lesquelles j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est un problème sociétal, vraiment, quoi. C'est qu'effectivement, on n'est pas bien formé. Ça, c'est une évidence. On l'est de moins en moins. Avant, on avait des stages, même en formation continue, de 3 semaines. Aujourd'hui, on est ravis quand on arrive à avoir des stages de 3 jours. On en est là quand même, hein. On a des stages, il faut qu'on les demande. Ce sont des stages qu'on n'aura pas tous les ans, en plus. On a quand même aussi des problèmes d'effectifs. Quand on a 26 enfants à faire lire, c'est long. Même si on veut tous les faire lire à voix haute, ou même tous les prendre un petit peu, au moins qu'ils lisent un petit peu avec nous toute la journée, c'est très long. Et puis, le gros souci de l'apprentissage de la langue française, ça, il faudra aussi, alors je sais que les réformes d'orthographe font bondir tout le monde, mais bon, enseigner à un enfant que dans la phrase, les gens jouent souvent, on va lire le ENT à souvent, mais pas à joue, c'est du boulot aussi, quoi, ça c'est très long aussi, quoi. Donc il y a tout ça que je voulais dire, et puis, on est un petit peu amer quand on entend ça, et puis la compréhension, c'est évident que c'est énorme, et quand on entend dire qu'il va falloir faire des dictées, je vois pas bien le rapport avec la dictée, c'est une vraie question.
Merci beaucoup.
Oui, c'est une vraie question pour nous aussi, hein, je vous rassure, et tous les jours, et les 60 heures qu'on passe à l'école par semaine, c'est une question qu'on se pose souvent.
On va essayer d'y répondre, Cécile. Merci beaucoup pour cette question et pour cette entrée en matière. Pour vous répondre ce soir au téléphone, sonne Stéphane Crochet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant, secrétaire général SEUNSA. Bonjour Roland Guagou.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'ESPE, École supérieure du professorat de l'éducation de Clermont-Auvergne. Et vous êtes aussi le directeur de recherche de l'étude Lire et Écrire. Et puis Sonia Bourin est là aussi, spécialiste éducation de France Inter. Stéphane Crochet, tiens, on commence par vous. Il y a une chose qui m'intrigue dans ce que dit Cécile. L'histoire des dictées du ministre, c'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce que ça aiderait à la compréhension? Expliquez-nous pourquoi l'un va avec l'autre, apparemment. À moins que non, hein, comme vous voulez.
Est-ce que je peux me permettre de reprendre les premiers mots de notre collègue qui dit « c'est une journée difficile ». Je pense que, il faut l'entendre de la part des enseignants qui s'engagent corps et âme tous les jours, et pas seulement au CP, mais dès la maternelle et puis après au-delà, que entendre une fois de plus que les résultats ont baissé, c'est vraiment quelque chose de difficile à entendre. Alors, dictée, je comprends l'interrogation de ma collègue. Non pas que la dictée n'ait pas de sens, et vraisemblablement, d'ailleurs, elle en fait beaucoup, tous les jours, elle dicte sûrement des mots à ses élèves le matin. Pour réactiver, pour travailler.
L'idée, c'est ça, l'idée de la question, c'est ça. Est-ce que écrire des mots active et met en place une compréhension ou pas, en fait? Une meilleure compréhension? Parce que visiblement, c'est la compréhension qui pose problème. Donc si on l'écrit, on comprend mieux? Non?
Alors je laisserai la parole
Roland
Guagou,
vous vous dites non? on va revenir à vous, hein, Stéphane Crochet, vous inquiétez pas. Vous vous dites non, en fait. C'est pas ça qui va aider réellement.
Disons que depuis des années que cette question de la compréhension, parce que Pearls, c'est la compréhension des textes, et pas seulement des mots, la compréhension des textes, est déficiente. Face à cette difficulté, on a deux idées qui sont toujours mises en avant. c'est la lecture, c'est le cours préparatoire, et on parle du cours préparatoire, alors qu'on est en train d'évaluer des élèves de CM, cours moyen, d'accord ? Et on concentre tout. Les questions sur le cours préparatoire, alors que c'est évidemment tout à la fois la question de la maternelle et la question du cours élémentaire et du cours moyen, que c'est une compréhension qui se travaille sur le long terme, donc certainement pas le cours préparatoire, première erreur. Deuxième erreur, on a beaucoup attiré l'attention des maîtres, depuis 2008 notamment, sur la maîtrise de la langue, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. Or, justement, là, ça va générer des progrès en grammaire, conjugaison, orthographe, mais ces progrès ne se transfèrent pas, c'est pas vrai, sur les compétences de lecture qui nécessitent un enseignement spécifique sur les processus de compréhension. Donc effectivement, c'est assez désarmant de voir que face à cette difficulté pour laquelle on attendait un plan d'intervention sur l'enseignement de la compréhension et un plan volontariste, les réponses se renouvellent, les erreurs qui sont les erreurs de, je dirais, tous les ministères depuis 15 ans, puisque c'est chaque fois ce qui nous est proposé en réponse aux questions de lecture.
Stéphane Crochet, avant qu'on parle à Isabelle qui nous attend au standard, il y a autre chose qui m'intrigue dans ce que disait Cécile à l'instant. Elle parlait de formation. 3 semaines avant, aujourd'hui 3 jours dans le meilleur des cas, et encore pas régulièrement. La clé est là aussi peut-être.
Vraisemblablement, parce que 3 jours dans le meilleur des cas, en effet, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Je voudrais redire que les élèves là, dont on parle, leurs résultats en 2016, ils sont rentrés à l'école en 2009. L'école, en 2009, ça a été les nouveaux programmes de 2008, très mécaniques, très techniques, et pas beaucoup sur la compréhension. Ça a été la suppression de la formation initiale, la suppression de la formation continue des enseignants, ça a été la semaine de 4 jours au lieu de 5, 4 matins au lieu de 5. Ça a été la division par deux des enseignants spécialisés auprès des élèves en difficulté. Ça a été l'augmentation des effectifs dans les classes parce que aussi baisse du nombre d'enseignants. Donc on avait tout le cocktail des mauvaises conditions pour l'apprentissage de nos élèves.
Isabelle nous appelle, 01 45 24 7000. Isabelle, on vous écoute, soyez la bienvenue, allez-y.
Oui, merci beaucoup pour la qualité de vos émissions. Oui, juste, je rejoins ma collègue institutrice un petit peu avant moi, c'est exactement ça, hein. On a moins d'heures de formation. Et puis moi, ce que je trouvais, c'est que les torts sont partagés quand même. Donc on a aussi moins d'heures d'enseignement, hein. faut se dire ça aussi. Plus de matières à enseigner, de l'anglais, des arts visuels, de l'éducation morale et civique, et puis des dictées tous les jours, bien sûr, comme si ça allait être efficace pour la compréhension.
Et puis, comme si vous ne le faisiez pas déjà d'ailleurs, Isabelle, au passage.
Voilà, exactement. Ensuite, je trouve, moi, que la lecture partagée à la maison, ça se fait de moins en moins. Ben, je sais pas, moi, quand j'interroge mes élèves, quand je discute avec eux, ben, y a pas beaucoup de lecture d'albums. Pourtant, on a une littérature jeunesse de grande qualité. Et puis voilà, moi je trouve qu'on manque totalement de ça aussi à la maison. Donc pour moi, voilà, c'est ni les méthodes, ce ne sont ni les méthodes de lecture en cause. Voilà, tout le monde est un petit peu doit se remettre en question, y compris tous nos ministres.
Ben allez, alors on va y venir, Isabelle. Je voudrais qu'on écoute Nathalie parce que vous dites à peu près la même chose, Nathalie, vous aussi. Si les parents lisent, les enfants lisent, tout ça marche dans les deux sens. Hein.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir Nathalie.
Je rejoins exactement ce que vient de dire ma collègue. C'est-à-dire que si à la maison, on n'a pas comme modèle un comportement de lecteur de la part des parents, on ne peut pas attendre des enfants qu'ils aient eux-mêmes un comportement de lecteur. Les enfants fonctionnent aussi beaucoup par mimétisme, donc le modèle des parents qui sont lecteurs, qui ont un réel comportement de lecteur, c'est-à-dire je m'assois avec mon roman et bah tu me laisses un peu tranquille, je suis en train de lire, tu vois, je lis.
Ça, et j'y prends du plaisir, parce que c'est le plaisir qui est transmissible.
Voilà. Donc l'investissement des parents, je pense que dans les sondages, mais les résultats que l'on veut bien transmettre, il faudrait aussi parler de l'investissement des parents par rapport à l'apprentissage de la lecture de leurs enfants. Et leur mission n'est pas complètement, voire pas du tout pour certains, atteinte. L'accompagnement n'est pas réel de la part des familles. Les enfants n'investiront l'apprentissage de la lecture que s'ils sentent bien que leurs parents attendent quelque chose d'eux à ce niveau-là.
Merci beaucoup Nathalie, merci à vous aussi Isabelle, parce que vous étiez effectivement dans le même ordre d'idées. Roland Guagou pour répondre et puis Sonia Bourane juste après.
Deux choses que nous trouvons dans les données de Peirce, parce que j'ai étudié les données de très près. Vous parlez de désir, vous parlez de plaisir, c'est aussi celui des maîtres. Or, dans l'étude de Peirce, les maîtres français sont deux fois plus nombreux à être insatisfaits que leurs collègues européens, et ils sont deux fois moins nombreux à être très satisfaits. C'est-à-dire que l'amertume dont il s'agissait tout à l'heure, elle est visible dans ces données, et Peirce conclut en disant « les maîtres plus motivés sont aussi les maîtres plus efficaces ». Donc là, il y a vraiment une question qui se pose, une question de gestion des ressources humaines dans l'éducation nationale. Comment on fait pour que les enseignants aient plaisir, aient goût à ce métier, et qu'ils n'aient pas l'impression de se faire taper sur les doigts tous les deux jours? Deuxième donnée de Peirce, très importante, sur la formation continue dont parlait l'auditrice précédente. Il y a des chiffres. 38% d'entre eux n'ont eu aucune formation continue sur la lecture dans les deux années qui précédaient. 38% autres d'entre eux, ça fait 75 au total ou presque, plus 76, ont eu moins de 6 heures de formation sur ce sujet, ce qui montre bien que ce n'est pas du tout une priorité. Moins de 6 heures et la plupart du temps sur Internet via un dispositif de formation à distance. Donc une grande pauvreté que Peirce nous renvoie comme une donnée objective pour interpréter les faibles performances de nos élèves.
Et ça se lit aussi, ça se lit aussi dans Peirce, ça veut dire que les autres, en gros, je pense aux Finlandais, parce que visiblement c'est ceux qui sont les champions, forment mieux, sont mieux reformés même, Sonia Bourhan.
Oui, c'est-à-dire qu'en France, on est les moins bien formés, il faut le dire aujourd'hui.
En formation continue.
En formation continue, on est les moins bien formés par rapport à nos voisins européens.
Très nettement.
Et alors pour revenir sur la question du rôle des familles, ce matin, le ministre a bien insisté, il n'a pas mis en cause les enseignants. Il a bien pris soin de dire que ce n'était pas la seule responsabilité des enseignants, mais l'ensemble de la société. Donc il faut effectivement s'interroger sur le rôle des parents, de la famille tout entière.
Des écrans, les savoirs, voilà ce que j'ai sous les yeux. C'est Claude qui nous écrit sur franceinter.fr. Je pense que pour donner envie aux enfants de lire et les aider à comprendre ce qu'ils lisent, il faut leur lire des histoires, comme disait Pénac. Et si on les met devant un écran, c'est sûr qu'ils auront moins envie de lire. Est-ce qu'on le sent, ça, au fil du temps, Stéphane Crochet, vous n'êtes pas bien vieux quand même, mais est-ce qu'on sent au fil du temps qu'il y a eu une perdition? Parce qu'on dit que c'est à peu près depuis 2000 qu'on lit mal, en fait, ou même un peu plus tôt d'ailleurs. Sonia, je parle
parce
sous
que
votre contrôle.
Oui, cette étude a commencé en 2001, donc on a cette référence de 2001.
Mais est-ce qu'on tombe réellement, en fait? Vraiment, est-ce qu'on tombe?
Moi, je doute que les élèves français vivent dans un monde très très différent des autres pays comparables. Et je pense que dans les autres pays comparables, le numérique fait aussi tout à fait partie de leur environnement.
Bien sûr, les Finlandais ont des tablettes, on est d'accord.
Donc, renvoyer à on lirait moins aujourd'hui me semble ne pas être la bonne solution. Il y a quand même à se demander ce qu'on peut faire au sein de l'école. Et il ne s'agit pas de culpabiliser les enseignants, mais de leur donner les moyens de bien faire leur métier. Quand on a 30 élèves dans une classe de maternelle, eh bien, c'est quand même très très compliqué d'aller développer avec eux les compétences langagières dont ils ont besoin.
Roland Guagou, pardon, puis ensuite on prendra un autre.
Dites-vous, il y a deux informations là-dedans. Une première information avait été donnée par le ministère français, dans un dispositif qui s'appelle CEDRE et qui est un dispositif très rigoureux, organisé par le ministère lui-même et qui montrait une stabilité des performances sur la période 2003-2015. Donc là, on a bien une chute et qui est d'une certaine manière peut-être à interroger sur la particularité de l'évaluation au Peirce. Et lorsque moi je montre aux maîtres que je rencontre en formation continue ou dans les écoles, les épreuves Peirce, les maîtres de cours moyens disent « Ouh là là, c'est compliqué, ils attendent ça de nos élèves, mais nous ne l'enseignons pas ». Donc il y a un niveau d'exigence dans cette compréhension qui est vraiment une compréhension fine, qui est une compréhension de savoir lire entre les lignes, savoir faire un raisonnement à partir des données du texte, et c'est notamment sur ces compétences-là que nos élèves plongent. Donc c'est là où on a besoin d'un rôle strict de l'enseignement, de stratégie de lecture pour compenser des les inégalités sociales. Et c'est là que, je dirais, le fossé se creuse.
Rémi nous appelle au 01 45 24 7000. Rémi, soyez le bienvenu, on vous écoute. Allez-y.
Oui, alors simplement un témoignage et un avis après sur le principe de la dictée. Le témoignage, par le passé, dans une vie antérieure, j'ai été instituteur dans une école multi-âge à Montigny-les-Cormeilles qui avait pour but de lutter contre l'échec scolaire. Et donc j'étais en charge du cycle des apprentissages. Et dans ce cadre, avec mes collègues, on avait mis en place des méthodes qui s'appuyaient à la fois sur l'expression orale, sur la lecture et sur l'écriture. On pensait que ces trois pivots étaient indissociables les uns des autres. Et notamment, on travaillait en essayant de déculpabiliser les enfants sur ces pratiques, notamment par de la pédagogie institutionnelle et notamment des quads neufs qui amenaient les enfants à s'exprimer oralement, à être repris par l'instituteur et à reformuler ce qu'ils avaient à dire, ce qui leur permettait, après quelle que soit leur origine, à accéder à l'écrit et à lui donner surtout à lui donner du sens.
Pardon Rémi, des quads neufs, c'est ça vous avez dit? Pardon, c'est
oui,
ça
des
que j'entends.
Quads neufs.
C'est-à-dire
on amène les enfants tous les matins à au
d'accord.
lieu de
quads neufs aujourd'hui et ils racontent.
Voilà, quads
neufs
et les enfants s'expriment, et ils sont repris, les instituteurs reformulent et ça permet d'énormément progresser
d'accord.
et de permettre à des enfants d'accéder vraiment à une expression orale
d'accord.
construite. Et par ailleurs, sur en termes d'évaluation des pratiques des enfants, on se dégageait au maximum de ce qu'on appelle des évaluations sommatives, c'est-à-dire simplement sanctionner les erreurs. Mmh. On n'était plus sur de l'évaluation formative, c'est-à-dire partir de ce que faisaient les enfants pour les amener à progresser. Et en particulier, alors sur la question de la dictée, au lieu de sanctionner les fautes, on partait sur les taux de réussite des enfants. Toujours ça pour déculpabiliser l'enfant de ses pratiques et de lui permettre de progresser. Voilà ce que je pouvais dire. Et il y a d'autres outils, je pense qu'il y en a de nouveaux maintenant, tels que qu'on appelait les autodictées, qui permettaient de sortir de là.
Ouais, mais moi j'ai fait des autodictées quand j'étais petit.
Je ne pense pas que la dictée systématique quotidienne soit la panacée ni la recette absolue de la lutte contre l'échec des enfants.
Merci beaucoup pour votre expérience et vos remarques, Rémi. Roland Guagou, quand on dit qu'il faut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire effectivement ne pas sanctionner, j'allais dire presque à l'américaine, c'est-à-dire on ne sanctionne pas quand il y a une faute, mais on félicite quand il y en a le moins possible, est-ce que on devrait aller plus dans ces directions-là, un peu comme le suggère Rémi ou pas?
Je crois que là-dessus, le consensus est assez fort.
Est-ce qu'on a trop de bâtons, en fait, toujours dans l'éducation nationale, finalement?
Le ministre insiste, à juste titre, sur une école de la confiance. Je laissais juste entendre qu'il fallait aussi avoir cette confiance envers les maîtres, et pas seulement envers les élèves, vraiment. Et qu'on la manifeste, cette confiance, en leur laissant, y compris, le choix de leurs outils. Même si on a besoin d'enrichir leurs pratiques en leur proposant des outils. Parce que le constat qu'on a pu faire en observant les classes de cours élémentaire 2, c'est qu'effectivement la priorité accordée à ce que j'appelais la maîtrise de la langue tout à l'heure, grammaire, orthographe, conjugaison, etc., sous différentes formes, fait que le temps dédié à la lecture en classe, un temps d'enseignement de la lecture, il est réduit à une peau de chagrin, en réalité, dans les classes de cours élémentaires.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut, je vais dire un mot qui ne fait pas plaisir, qu'il faut sacrifier une partie de la grammaire et de l'orthographe pour privilégier la lecture, parce que finalement, grâce à la lecture, viendront la grammaire et l'orthographe, ou est-ce qu'il faut trouver du temps pour le même temps, le même espace pour chaque chose?
C'est une question insoluble, et chaque cabinet ministériel, à tour de rôle, essaye de trouver un dosage entre ces questions-là. De fait, quand on voit les priorités, ça veut dire qu'à côté, il y a des choses qui passent au second plan. Aujourd'hui, il y a une priorité lecture cours préparatoire. On entend que c'est moins prioritaire sur les autres classes. Il y a une priorité maîtrise de langue. On entend que la lecture est moins importante. Alors effectivement, il y a un problème de dosage. Et je pense que là, aujourd'hui, si on veut que dans 5 ans, PIRLS soit avec un autre niveau, il faut travailler sur les compétences qui sont évaluées. Par exemple, on demande beaucoup à nos élèves à rédiger des réponses qui sont des réponses argumentatives. Expliquer comment on a fait pour trouver cette réponse, justifier son point de vue. Et ce niveau-là, c'est un niveau qui est exigeant et coûteux en temps. Et si c'est coûteux en temps, c'est forcément au détriment d'autre chose. La pédagogie, c'est une histoire de vase communicant. Vous avez un horaire donné et il faut pouvoir trouver le bon dosage. Je ne suis pas sûr qu'on y soit, à ce bon dosage.
Cécile, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, on vous écoute, Cécile.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais témoigner en tant que parent. parents de trois garçons âgés de 16, 15 et 7 ans. Je suis plutôt une grande lectrice. Il y a beaucoup de livres chez moi. Mes enfants baignent depuis tout petit dans un univers où il y a du livre partout. Ils me voient beaucoup lire. C'est quelque chose que je partage avec eux complètement. Je venais un petit peu réagir par rapport au témoignage des enseignants pour lesquels j'ai le plus grand respect. Et voilà, je respecte tout à fait leur travail, leurs conditions de travail parfois difficiles. Mais je les remercie en particulier pour toute la technicité qu'ils ont apportée dans l'apprentissage de la lecture que j'ai trouvé. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Et ils ont été là pour ça. Pour autant, j'ai pu me remettre moi en question. Il faut dire que j'ai trois enfants qui sont plutôt pas très lecteurs, ce dont je me désole. Je me suis remise en question sur le fait que l'écran avait pris beaucoup de place à la maison.
Donc vous avez interdit l'écran.
Au détriment du livre, voilà. Je l'ai pas interdit, c'est un peu compliqué. Je le gère comme au maximum de ce que je peux. En tout cas, je continue de mettre du livre partout à tous les âges. Ce que je peux un petit peu, entre guillemets, reprocher au niveau de l'école, c'est que je trouve que je n'ai pas toujours été accompagnée justement sur la lecture. On apprend à lire aux enfants, mais après, on leur propose pas beaucoup de choses. C'est aux parents de proposer, et à un moment donné, les enfants...
Vous voulez dire en termes de livres, on leur dit pas, tu devrais lire ça.
Oui, c'est vraiment là-dessus.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une littérature jeunesse totalement florissante aujourd'hui.
Oui, mais on la laisse proposer aux parents. Voilà, j'ai fait de la bibliothèque, j'achète des livres. À un moment donné, j'aurais eu envie que l'école... oblige un petit peu plus mon enfant pour dire il faut le faire, voilà. Je me suis parfois sentie un petit peu seule, même si mes enfants baignent dans un univers littéraire.
On a bien entendu, merci beaucoup Cécile, ce que vous disiez, Stéphane Crochet. Effectivement, ce que dit Cécile, c'est oui, alors moi j'essaye, moi je pousse, c'est pas toujours simple, il faut jouer avec les tablettes et le reste. La part de l'enseignant, peut-être, effectivement, c'est de l'amener dans des directions auxquelles elle n'a pas pensé elle-même, ou suggérer des choses, suggérer des livres.
Alors, c'est vrai que la littérature de jeunesse est foisonnante.
Bah oui.
Et c'est une source assez fantastique, d'abord à l'intérieur de la classe. C'est plutôt une joie en tant qu'enseignant de pouvoir travailler avec cette diversité-là. Et après, dans les écoles, on a des niveaux d'équipement très très différents. On a des endroits où on a des bibliothèques scolaires très très fournies qui permettent aux élèves de prendre des livres dans l'école, mais aussi d'avoir des échanges à l'intérieur de l'école et en tant que lecteur sur leurs expériences de lecture. Il y a des endroits, évidemment, on n'a pas ça. Donc, cette question de l'équipement des écoles est aussi une question importante.
Sonia Bourane.
Moi, j'avais une question. On sait qu'au sein des familles, il y a justement des enfants qui lisent de façon très différente. Il y a des enfants qui vont lire énormément, puis un autre, son frère, par exemple, ne va pas lire énormément. Est-ce qu'on sait...
C'est l'expérience qui parle,
non, mais
Sonia.
Est-ce qu'on sait ce qui fait qu'un enfant aime lire, a du plaisir à lire? Est-ce qu'il y a des études là-dessus?
Roland Guagou, c'est pour vous.
Les études scientifiques sur le désir et sur le plaisir, vous imaginez bien qu'elles sont compliquées. On a des regards sociologiques qui montrent que, effectivement, il y a dans les sociabilités du lire, disent les sociologues ou les historiens, quelque chose qui a à voir avec la relation qu'on entretient avec d'autres avec lesquels on parle des lectures. Donc, est-ce qu'on a un interlocuteur avec qui on partage le plaisir du texte, le plaisir de l'histoire et on voit par exemple chez les adolescents que deux jeunes qui s'échangent beaucoup de lectures et qui lisent beaucoup, un des deux déménage, il y a une rupture dans l'appétit de lecture qui est liée au fait qu'on n'a plus l'interlocuteur. Donc ça met en jeu des tas de dimensions qui sont évidemment, qui dépassent très largement la technicité pédagogique de tel ou tel. Et là, je ne voudrais pas dire trop de bêtises après sur ces notions-là. Mais c'est clair que c'est un enjeu de relation avec l'autre. C'est pas simplement un rapport intime avec l'œuvre.
Et alors, tiens, en parlant de l'œuvre et surtout de sa forme, bonsoir Morgane.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute. Question intéressante, Morgane.
Écoutez, moi en fait, je suis éducatrice spécialisée de formation. Je travaille dans un lycée technologique et je suis maman d'une jeune fille de 13 ans et demi. J'ai pas la télé, elle a été élevée sans télé. Moi, ce qui m'interroge, c'est le plaisir et ce qu'amène l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant, il aime lire, il aime les histoires, il aime le rêve, mais quand il en parle à l'école, ça correspond pas au cadre qu'on lui propose. C'est-à-dire que moi, quand j'ai passé mon bac, il y avait un certain nombre de livres au programme. C'est toujours les mêmes. Mmh. Pourtant, voilà, j'ai eu ma fille à 27 ans. C'est étonnant un petit peu que ça suive pas le cheminement de nos enfants et que les mondes qu'ils nous proposent soient pas ceux qui soient attendus dans le cadre scolaire et dans les attendus et les compétences qu'on attend d'eux. Et quand on les écoute un petit peu, je crois qu'ils comprennent beaucoup de choses, qu'ils aiment les histoires, qu'ils aiment les rêves et que le livre, c'est ça.
Mmh. Et qu'on leur donne pas les bons. Est-ce que vous dites qu'on leur donne pas les bons, Morgane?
C'est pas qu'on leur donne pas les bons, c'est que on pense qu'on n'a rien à apprendre d'eux.
Des enfants.
Et qu'il y a plein d'enfants qui parlent de choses qu'ils voient en dehors du cadre scolaire et ça rentre pas dans le cadre scolaire. Donc voilà, peut-être que si on étendait un petit peu l'intérêt aussi qu'on a pour ce qu'ils aiment, les jeunes ados dans mon lycée technologique qui lisent des mangas ne sont pas considérés comme des lecteurs. Mmh. Ce sont des lecteurs.
Elle a raison sur les mangas, par exemple, Morgane, sur les différentes formes de ce qu'on lit aujourd'hui, sur le roman graphique qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, sur peut-être même sur le format de ce qu'on lit. Est-ce qu'on n'est pas nous, vous, les parents, arc-boutés sur « tiens, prends un livre », alors que si on lui donnait sur une tablette, finalement, ben, peut-être qu'il le lirait plus, puisqu'ils ont beaucoup plus l'habitude de ce genre de support. Roland Guagou.
Là-dessus, on n'a pas beaucoup de données, si ce n'est que quand on fait des évaluations, on s'aperçoit que les compétences dans les lectures numériques sont, comment dire, les mêmes, à peu de choses près, que sur des supports papier, et que ce sont les mêmes élèves qui sont les plus performants sur l'un et sur l'autre. Donc, c'est pas comme s'il y avait une culture parallèle qu'on ignorerait. Alors qu'après, dans les logiques de motivation, il puisse y avoir une multiplicité de supports, c'est clair. Et d'ailleurs, Peers a mis en place un dispositif qui s'appelle ePeers, pour lequel il y a une évaluation des lectures numériques qui, au passage, pose des problèmes de complexité, de stratégie. Là encore, si on les prend pas en tant que tel, comme objet d'enseignement, je vous promets que les fossés vont continuer à se creuser.
Stéphane Crochet, ce qui était intéressant aussi dans la question de Morgane, effectivement, c'est la matière. Est-ce que vous lisez des mangas, vous? Mais les enfants, oui. Est-ce que vous lisez des romans graphiques? Moi, non. Mais les enfants, oui. Est-ce que, effectivement, Morgane n'a pas raison, il faut aussi faire le chemin vers eux, vers ce qu'ils aiment, vers ce qu'ils lisent, ce qui finira peut-être par les emmener vers Jean d'Ormesson ou un autre.
Alors, évidemment, il faut trouver les moyens de faire se conjuguer les envies, le monde de nos enfants, des élèves, avec le monde de l'école. Et je pense que, en l'occurrence, l'école maternelle et l'école élémentaire n'est pas fermée à ça, et que les mauvais résultats que l'on a découverts ce matin ne sont pas issus de ces mondes qui ne réussiraient pas à se rapprocher. Ou en tout cas, pas sous cet aspect, parce que l'enquête Peirce dit tout de même nos élèves sont moins interrogés que les autres pour faire référence à leur vécu au regard de leur lecture. Donc on est là sur un autre aspect qui n'est pas celui de il y aurait des lectures scolaires et des lectures hors le monde. Par contre, il y a bien la question de faire le lien pour nos élèves les plus fragiles, entre leur vie, leur histoire, ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ont à trouver dans cet écrit. Et je crois pas, il faut pas tout à fait peut-être faire de symétrie entre les élèves un peu grands, ados, qui aimeraient moins lire, et les difficultés de lecture dont on est en train de parler là, d'élèves qui ont du mal à accéder au sens. Je fais le pari que nombre d'enfants, d'enseignants, par exemple, ont toutes les compétences qu'il faut pour accéder au sens, et qu'il est bien possible qu'à l'adolescence, ils aient moins envie de lire. Et qu'ils retrouveront ce plaisir-là un peu plus tard.
Carole nous écrit sur franceinter.fr, les problèmes de compréhension sont liés au vocabulaire. Beaucoup d'élèves n'ont pas assez de vocabulaire pour accéder à la compréhension et pour qu'elle soit réellement fine. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Crochet? C'est assez juste.
Oui, Oui, c'est assez juste. Enfin, c'est pas pour rien si on parle, nous, à l'UNSA, avant toute chose, peut-être de la place de l'école maternelle, parce que on voit bien que les inégalités, elles sont là dès le plus jeune âge, dans le stock de mots, dans les vocabulaires acquis par les enfants, et qu'on a là un objet de travail essentiel, difficile à faire quand même, avec 30 élèves dans la même classe.
Et alors, pour rebondir là-dessus, Roland Guagou, il y a aussi cette ce mail qui vient d'une femme qui est orthophoniste. Et qu'on dit, ce qu'on oublie aussi, c'est qu'un bon apprentissage de la lecture suppose de solides compétences également dans le langage oral. Donc il y a beaucoup de choses, effectivement, c'est ça que ça dit. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, qui vont au-delà simplement, évidemment, de la compréhension.
Stéphane Crochet a raison. Cette histoire se construit sur le long terme et commence fortement en maternelle. Je voudrais prendre un témoignage là. On a actuellement une grosse expérimentation, 250 classes de maternelle dans 35 circonscriptions différentes, autour d'un dispositif qui est basé sur la littérature de jeunesse. Et la clé de ce qu'on propose, c'est d'apprendre aux élèves, pas simplement à découvrir le texte, mais à être capable de le raconter par eux-mêmes. Et donc, il y a un gros dispositif où on entraîne les enfants à raconter tout seuls, et ils y arrivent. Et ils font la fierté de leurs parents, qui viennent voir les enseignants quasiment la larme à l'œil. On a de nombreux témoignages, mais réellement, on a des résultats très spectaculaires, évalués par ailleurs. Et on a des enfants qui sont fiers. Et ça me paraît important de faire le lien ici entre le plaisir dont vous parliez tout à l'heure, avec quelque chose qu'on appelle, on va dire, un sentiment de compétence. Et qu'est-ce qui nourrit la motivation pour ces activités-là? Le fait qu'on se sente capable de faire, qu'on soit capable de réussir, et que quand on raconte, tout le monde s'arrête parce qu'on raconte tellement bien. Donc là, il y a un travail, et c'est le vocabulaire, mais c'est aussi les tournures syntaxiques du langage oral qui sont travaillées dans ces dispositifs à l'école maternelle. Ça s'appelle Naramus.
D'accord, Sonia Bourane.
Alors justement, ce qui est très étonnant, c'est que la maternelle est un peu notre point fort par rapport à d'autres pays. Or, c'est à la maternelle qu'on acquiert ce vocabulaire. Comment se fait-il qu'on soit si mal classé par rapport à d'autres pays qui n'ont pas développé un enseignement dès la maternelle comme chez nous ?
Cette notion de point fort, vous savez, je ne suis pas sûr que ça ne fasse pas partie des grands mythes pédagogiques. Est-ce qu'on a vraiment des évaluations internationales qui montreraient qu'à l'entrée au cours préparatoire, donc à la fin de la maternelle, nos élèves se distingueraient vers le haut des autres et qu'ensuite il y aurait une longue déperdition? J'en suis pas sûr du tout, du tout. Je pense que on a mis en avant une lecture plaisir à l'école maternelle. Mais ce dont je parle, c'est bien plus qu'une lecture de découverte, c'est un travail, appelons-le comme ça, systématique, adapté à des enfants de 4 ans, avec le jeu, avec les marottes, avec le fait de raconter des choses qui sont évidemment adaptées à leur âge, mais c'est quelque chose qui est assez systématique et planifié dans le travail de l'enseignant. Donc cette maternelle, elle va être une maternelle du jeu, mais il faut aussi qu'elle soit une maternelle dans laquelle il y ait des objectifs clairs sur le plan langagier, sur le plan du lexique, et je le disais, sur ces tournures syntaxiques que les enfants apprennent à maîtriser, parce qu'on les fait travailler à l'oral, mais sur du texte écrit. C'est un texte qu'on leur lit.
Aziza est au téléphone. Aziza, bonsoir, on vous écoute, allez-y.
Oui, bonsoir. Je voulais simplement parler de l'expérimentation de madame ou mademoiselle Céline Alvarez, qui a tenu compte des apports des neurosciences pour mener une expérimentation formidable auprès des enfants jugés de milieux défavorisés et qui a donné des résultats extraordinaires. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à explorer de ce point de vue-là?
Donc les neurosciences avec une approche qui repose en gros sur l'activité cérébrale. Je vais tout mettre dans le même sac, si je puis dire, parce qu'on nous parle de Céline Alvarez, effectivement. Stéphane Crochet, vous allez pouvoir répondre. Et puis on nous parle aussi de toutes ces méthodes, la méthode Montessori, la méthode Freinet, etc. Au point de se demander s'il en existe une, en fait, qui est meilleure qu'une autre. Alors les neurosciences, par exemple, Stéphane Crochet.
Les neurosciences, c'est une des sciences dont on a besoin à l'école, mais il en existe bien d'autres. On a besoin de questions de sociologie, de psychologie, on a besoin de didactique, de pédagogie. Enfin, voilà, je vais pas faire la liste. Peut-être surtout à l'école, nous avons perdu le goût de prendre le temps, ou pas le goût, parce que je crois, enfin, on a surtout perdu cette habitude de prendre le temps, de suivre les enfants, d'être avec eux. On a voulu, il y a une accélération dans les programmes de 2008, on a voulu aller vite sur des contenus, sur de l'encyclopédie et pas sur de la construction de compétences. Et du coup, on a manqué toutes les occasions, on risque de manquer avec nos élèves, toutes les occasions de rentrer dans l'écrit. Parce que l'écrit, ce n'est pas que sur le temps de la lecture. L'écrit, on est confronté tout le temps dans la journée à l'école à l'écrit et toutes les occasions sont bonnes. Et peut-être que on n'ose plus suffisamment prendre le temps avec les élèves de rentrer dans toutes les bonnes occasions de travailler l'écrit.
Ah, Zachary, comment ça va, Zachary?
Bonsoir.
Ça faisait longtemps
merci.
Qu'on n'avait pas de vos nouvelles. Allez-y, on vous écoute.
Zachary. Ouais, par rapport à la lecture, je pense qu'on est très inégaux dans le sens où on y plonge ou pas en fonction du milieu d'où on vient, enfin nos parents, de s'ils lisent ou pas, ça a été dit. Et je crois que du coup, pour commencer, l'école, elle doit donner envie de lire. Et elle doit permettre du coup cette égalité des chances de se plonger ou pas dans les lectures d'où qu'on vienne. Et ça commence aussi par les textes qu'on nous fait étudier à l'école. Et je crois que ça doit être quelque chose auquel on doit faire attention parce que je pense notamment à Thérèse Raquin, moi j'ai étudié en quatrième, quand on nous parle de dépressions et des hallucinations d'une femme après l'assassinat de son mari, pour ceux qui lisent pas et pour qui c'est le seul livre qu'ils auront lu de l'année, ça ne pas
envie de leur faire tout drôle, c'est ça que tu veux dire, Zachary? Ça leur fait tout drôle.
Ça donne pas envie de lire d'autres livres, ouais, je pense après. Et justement, je pense que l'école, elle doit sortir le livre de l'institution scolaire. Pour qu'ils s'impriment peut-être dans le quotidien, ouais, de ceux qui sont pas habitués, et pour permettre justement d'ouvrir à la curiosité, de poursuivre après l'apprentissage par soi-même. Ça permet ça aussi la lecture, d'aller au-delà de l'école.
Et tu veux dire qu'on n'ira pas forcément vers Thérèse Raquin, en tout cas pas tout de suite. C'est pas complètement faux. Cela dit, il y a beaucoup de livres qu'on ne lit plus après, bêtement, parce qu'on se dit, si je l'avais pas lu en première ou en terminale, tant pis. Enfin, si je l'avais lu, tant mieux. Si je l'ai pas lu, maintenant c'est trop tard. Ce que dit Zachary en creux, Stéphane Crochet, c'est un peu ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Il y a une sorte de décalage en fait entre ce qu'on fait lire, la manière dont on appréhende l'apprentissage, ce qu'on fait lire aux enfants par rapport à la fois leur centre d'intérêt, par rapport à tout ça. Moi, j'ai appris le piano en faisant du bac, par exemple. Résultat, aujourd'hui, je ne sais pas tirer une seule note. Si on m'avait appris Au clair de la lune, peut-être que je saurais jouer du piano aujourd'hui. Vous voyez, Thérèse Raquin.
Alors, ça fait déjà longtemps que la question des textes littéraires ou pas, enfin, quel texte est posée à l'ensemble des enseignants et à l'école élémentaire, y compris au collège. Il me semble que l'éducation nationale s'est beaucoup ouverte vers d'autres textes. Moi, je voudrais aussi relever un mot de notre auditeur autour de l'envie d'apprendre. Mmh. Je voudrais dire que nos élèves, en général, et plus qu'en général, ils ont tous vraiment très très envie d'apprendre, et notamment très très envie d'apprendre à lire. En revanche, chez les plus jeunes, les représentations de qu'est-ce que lire et leurs premières habiletés de lecteur avant même qu'ils soient rentrés dans la maîtrise de la lecture, elle est très très diverse. Et c'est là qu'il faut qu'on construise avec eux sur leur représentation de qu'est-ce que lire, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un texte. Et il est là l'enjeu. Mais surtout, ne disons pas que nos élèves auraient plus ou moins envie. Nos élèves, ils ont terriblement envie d'apprendre à lire. Par contre, pour certains, ils ont déjà construit une idée assez précise de ce qu'est lire, pendant que d'autres, pour eux, il y a une part de magie.
Voilà, écoutez, il y a peut-être aussi de la magie à lire Zola. Il y a aussi de la magie à lire Zola. Ça viendra doucement, Zachary, c'est promis. Allez, merci à tous et passez une bonne soirée.